trois quarts d'heure. Et puis ensuite, des questions seront posées. Nous nous connaissons, n'est-ce pas, mais M. le pasteur, lui, n'a pas l'habitude avec notre groupe. Et je voulais le rappeler.
Ça marche, l'appareil, si je parle avec le micro sur la table, ça enregistre correctement, ou bien, alors on laisse comme ça, parce que alors, vous croyez que si on le met là, il n'y a pas d'écho? De vous parler de David et d'en parler dans le contexte des amitiés judéo-chrétiennes, donc du dialogue entre juifs et chrétiens, et cette situation me conduit à m'interroger pas seulement sur la figure de David telle qu'en parle les deux livres de Samuel et le début du premier livre des rois, mais à m'interroger aussi sur la réception de la figure de David, cette réception de la figure de David, notamment dans la tradition biblique, et aussi tradition biblique de la Bible hébraïque et de la tradition néo-testamentaire. Et de ce point de vue, il me semble que l'on pourrait faire trois exposés. J'en ferai qu'un, mais avant de commencer celui que j'ai choisi de faire, je voudrais simplement indiquer ce qu'à mon sens, les trois exposés qu'on pourrait faire sur David. Dans cette perspective, je dirais, de la réception de la figure de David dans la tradition biblique, de la Bible hébraïque et la tradition néo-testamentaire. Tout d'abord, on pourrait parler de David, joueur de sitar, le premier qui exerce ce qu'on pourrait appeler une musicothérapie, puisque vous savez, David a commencé sa carrière à la cour du roi Saül, dont il calmait les moments de mélancolie à travers un jeu musical. Ce David, joueur de sitar, on pourrait le rapprocher du David, auteur des psaumes. Ben, les psaumes sont mis sous l'autorité de David et à plusieurs reprises, le Nouveau Testament cite David prophète, c'est-à-dire David inspiré, et ce David inspiré, c'est celui dont on cite les paroles qui sont les paroles des psaumes. Et donc, comme vous le savez, les psaumes, le livre des psaumes, est un livre qui est à l'origine de la piété juive comme de la piété chrétienne. Jésus de Nazareth a eu sa formation religieuse à travers comme beaucoup d'autres enfants juifs, a eu sa formation religieuse à travers la lecture. C'est encore à l'époque de Jésus, on apprenait à lire et écrire en lisant le livre des psaumes. Et encore aujourd'hui, dans les communautés religieuses chrétiennes, eh bien, on lit l'ensemble du psautier 2-3 fois par an. En même temps, le fait qu'il existe dans la Bible, juive et chrétienne, un livre comme le livre des psaumes est une marque de l'originalité de la tradition biblique. Dans un livre religieux comme le Coran, par exemple, je ne crois pas, ou je ne pense pas qu'il y ait des textes équivalents à ce livre des psaumes. En effet, la Bible nous rapporte la parole de Dieu, comme on le dit quand on la lit, quand on l'écoute dans les cultes protestants, mais d'innombrables prophètes intitulent leur message ou mettent leur message sous le signe de la parole de Dieu. Les psaumes ne sont pas parole de Dieu. Les psaumes sont réponse humaine de la parole de Dieu. Et vous voyez que le fait même qu'il y ait cette originalité de la tradition biblique, qu'elle nous transmette à la fois une parole de Dieu et une parole humaine en réponse à cette parole, manifeste, si vous voulez, la réalité même de l'Alliance. C'est-à-dire que ce qui structure la tradition biblique, c'est cette réalité de l'Alliance. Parce que, si vous voulez, parler de l'Alliance, c'est une manière de dire que Dieu ne veut pas être sans sa créature. Que Dieu ne demande pas seulement à sa créature d'obéir, mais il lui demande de l'aimer, il lui demande de lui répondre, de vivre dans un dialogue avec Dieu. Et nous allons voir que la figure de David est marquée par cette réalité de l'Alliance. Et d'une double façon, on pourrait marquer cette réalité de l'Alliance à travers, évidemment, on pourrait faire référence aux dernières paroles de David à la fin du second livre de Samuel, où David cite explicitement, parle explicitement d'une alliance. Mais je dirais la réalité de cette alliance, elle est exprimée par les deux discours, les deux prophéties que Nathan adresse à David, d'abord au chapitre 7 du second livre de Samuel, où au désir de David de construire un temple, d'édifier une maison pour le Seigneur, eh bien, Nathan répond, c'est moi, le Seigneur, qui vais te construire une maison, c'est-à-dire qui va établir une dynastie à laquelle Dieu promet sa fidélité. C'est-à-dire qu'il engage l'histoire qui va être issue de cette histoire de David, il l'engage dans une promesse qui est scellée, dans une alliance qui est scellée par une promesse. Et si vous voulez, c'est la reprise de cette alliance, de cette promesse, dans la tradition prophétique qui va être à la naissance de cette tradition messianique où, à travers laquelle David va devenir une figure messianique. À cette manière d'exprimer l'espérance messianique à travers le titre de fils de David. Ce titre fils de David apparaît dans le Nouveau Testament, il est appliqué à Jésus par notamment par des aveugles, Bartimée et puis d'autres aveugles, et pas seulement par des aveugles, mais il est attribué à Jésus de Nazareth, mais en même temps cette attribution de ce titre fils de David pose des problèmes, n'est-ce pas? Elle n'est pas acceptée par Jésus de Nazareth sans autre. Ben, ça, je dirais, ça engagerait toute la question de la manière dont on reconnaît, on définit la messianité de Jésus de Nazareth et le lien entre la compréhension de cette messianité avec la tradition messianique liée à la figure de David. Il y a un second discours, un second grand discours de Nathan à David, c'est au moment où il a pris Bethsabée et où il a mis Bethsabée enceinte avec les conséquences de cet acte. Et vous voyez, dans cette perspective, dans ce troisième, si vous voulez, contexte, dont je vais parler plus longuement, dont je vais faire l'objet de mon exposé, on pourrait dire que la question de l'alliance devient la question de la fidélité, comment s'exprime la fidélité de Dieu à l'égard de l'être humain lorsque l'homme est infidèle à cette alliance. Lorsque l'homme, on pourrait dire, est lié au mal. Cette tradition, n'est-ce pas, qui est marquée par le péché de David avec Bethsabée, dans le fait de prendre Bethsabée, et la réponse de Dieu à travers les paroles de Nathan, c'est une tradition qui a peu été reprise. Elle n'est évoquée qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, dans la généalogie de Jésus, où l'on cite Salomon, qui est fils de Bethsabée, femme d'Uri. N'est-ce pas ? Il y a une seule mention donc de cet aspect de la figure de David dans le Nouveau Testament. Dans la tradition biblique de la Bible hébraïque, cet aspect n'est pas repris, notamment dans le livre des Chroniques, qui tente un peu à idéaliser la figure royale de David. Il n'y a aucune mention de Bethsabée, en fait, de ce qui s'est passé entre David et Bethsabée. Et pourtant, je crois que spirituellement et théologiquement, ces deux chapitres du second livre de Samuel, les chapitres 11 et 12, sont une richesse, donc spirituelle et théologique, immense. Ce qui fait que j'ai choisi de les lire avec vous et de les commenter. Je lis d'abord, pour que vous bien vous mettre en mémoire ce qui s'est passé, une grande partie, pas tout, pour ne pas faire trop long, mais une grande partie du chapitre 11. Or, au retour de l'année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab, donc le général, avec tous ses serviteurs et tout Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba, tandis que David demeurait à Jérusalem. Donc les Ammonites, c'est ce qui correspond, le pays des Ammonites correspond à peu près à ce qu'aujourd'hui la Jordanie. Donc David est resté à Jérusalem. Sur le soir, David se leva de son lit, il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. La femme était très belle. David envoya prendre des renseignements sur cette femme, et on lui dit, mais c'est Bethsabée, la fille d'Éliam, la femme d'Uri le Hittite. David envoya des émissaires pour la prendre. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. Elle venait de se purifier de son impureté, c'est-à-dire une manière de dire qu'elle est dans une période de fécondité, puis elle rentra chez elle. La femme devint enceinte, elle en fit informer David et déclara « Je suis enceinte ». David envoya dire à Joab « Envoie-moi Uri le Hittite ». Joab envoya donc Uri à David. Uri arriva près de lui. David demanda comment allait Joab et le peuple et la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi et lave-toi les jambes. » Uri sortit de chez le roi, suivi d'un présent du roi. Mais Uri coucha à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa propre maison. On vint dire à David, « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri dit à David, « L'arche, Israël et Juda habitent dans des huttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'irai chez moi manger, boire et coucher avec ma femme. Par ta vie, par ta propre vie, je ne ferai pas cette chose-là. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita, il mangea et but en sa présence, et David l'enivra. Uri sortit le soir pour aller se coucher sur son lit avec les serviteurs de son seigneur, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'entremise d'Uri. Il avait écrit dans cette lettre, « Mettez Uri en première ligne, au plus fort de la bataille, puis vous reculerez, il sera atteint et mourra. » Joab, qui surveillait la ville, plaça donc Uri à l'endroit où il savait qu'il y avait des hommes valeureux. Les gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab. Il y eut des victimes parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hittite mourut lui aussi. La femme d'Uri apprit qu'Uri, son mari, était mort, et elle pleura son mari. Le deuil passé, David la fit chercher et la recueillit chez lui. Elle devint sa femme et elle lui enfanta un fils. Mais ce qu'avait fait David déplut au Seigneur. Un art du récit, je dirais, extraordinaire. On voit en quelque manière, et cela rejoint notre expérience à tous, comment une faute en entraîne une autre. Comment, pour cacher une faute, on est amené, n'est-ce pas, à se mettre dans l'impasse, dans une situation sans issue. N'est-ce pas, il y a une sorte de logique, une nécessité dans laquelle, à partir de cette première faute, à laquelle doit obéir David. Il a utilisé sa position de roi, ses privilèges, sa puissance, pour s'approprier la femme d'un autre, dont la beauté la séduit, et pour coucher avec elle. Et cela, pour David, ne doit pas avoir de conséquences, puisque personne ne doit rien en savoir. Il se trompe, la femme est enceinte. Et donc, il faut dissimuler le fait que c'est lui qui est la cause de cette grossesse. Pour cette raison, il fait venir Uri, donc le mari de cette femme, qui est sur le front, qui combat dans la guerre contre les Ammonites. Il le fait venir sur le front pour qu'il endosse en quelque sorte l'enfant fait par David, de telle sorte que l'adultère reste caché. Malheureusement, cette manœuvre échoue à cause de la droiture d'Uri. N'est-ce pas ? Il ne va pas profiter de ce congé, n'est-ce pas, coucher avec sa femme, festoyer, alors que ses compagnons, n'est-ce pas, sont à la dure dans la préparation du combat. David, qui est rusé, n'est-ce pas, et fait une seconde tentative, n'est-ce pas, il enivre, il fait manger Uri et puis il le fait boire parce qu'il pense que de cette façon, ce sera plus facile de l'amener auprès de sa femme. En vain. Si vous voulez, la solution élégante a échoué. Et donc, il faut prendre une mesure radicale, c'est-à-dire faire périr Uri. C'est ce que fait David, n'est-ce pas? Il renvoie sur le front avec une lettre pour le général de le mettre dans une position exposée où, lors d'une attaque, il périra. Avec la mort d'Uri, David considère que l'affaire est réglée, il prend la femme dans son palais et il continue, n'est-ce pas, sa vie de roi d'Israël. Pourtant, il y a deux personnes qui sont informées. D'abord, Joab, le général. Le général, il a compris de quoi il s'agissait puisqu'il a eu un mot. Et donc, David a en quelque sorte restreint sa liberté, puisque, sachant cela, Joab peut faire pression sur David. Et dans un passage que je n'ai pas lu, on voit une allusion à cela. Mais il y a un autre qui est au courant de ce qui s'est passé, c'est Dieu. Ça, le chapitre se termine, ce qu'avait fait David déplut au Seigneur. En effet, cet acte commis par David demeure dans la mémoire de Dieu. Dieu ne l'oublie pas. Et cet acte jette une ombre sur la figure de David. En ceci que, d'autant plus que le roi est le gardien de la justice. Si vous voulez, celle-là, c'est la grande tradition royale, qui n'est pas propre à Israël, qui vient de, aussi bien d'Égypte ou de Mésopotamie, et qui va encore configurer l'idéologie royale européenne, n'est-ce pas? Vous vous souvenez sans doute dans les livres d'histoire de la figure de Saint-Louis, n'est-ce pas, rendant la justice sous un chêne. Le roi est le garant de la justice. Il est le garant de la justice parce que la justice, c'est ce qui maintient l'ordre du monde. Or, c'est le roi lui-même, le gardien de la justice, qui lèse la justice. Et qu'il a l'aise, on pourrait dire doublement, puisqu'il fait périr un innocent. C'est en ce sens que ce qu'a fait David déplaît au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Je lis au début du livre, du chapitre 12. Le Seigneur envoya Nathan à David. Il alla le trouver et lui dit, « Il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait force moutons et bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait de sa pitance, elle buvait à son bol. » Elle couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un autre arriva chez le riche. Il n'eut pas le cœur de prendre de ses moutons et de ses bœufs pour apprêter le repas du voyageur venu chez lui. Il prit l'agnelle du pauvre et l'apprêta pour l'homme venu chez lui. Nathan, donc, vient vers David et lui raconte une histoire. C'est-à-dire, il lui propose un cas, ou un cas qui concerne, si vous voulez, la fonction de David, la fonction royale, de rendre la justice. C'est-à-dire une histoire de violence, n'est-ce pas, le rapt d'une brebis par un riche, une violence exercée par un riche à l'encontre d'un pauvre et aussi d'un innocent. Le cas ne pose aucun problème. Une brebis a été volée, le voleur est connu et la loi est tout à fait claire. Je cite Exode 21:37. Quand un homme volera un bœuf ou un mouton et qu'il l'aura abattu ou vendu, il donnera 5 bœufs en compensation du bœuf et 4 moutons en compensation du mouton. Vous voyez, un problème juridique est proposé au roi, et la loi est claire. Voyons comment David juge ce cas. David entra dans une violente colère contre cet homme, et il dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela, et de la mienne, il donnera compensation au quadruple pour avoir fait cela et pour avoir manqué de cœur. » Donc vous voyez, le jugement est clair. Tout d'abord, par la vie du Seigneur, c'est-à-dire que c'est un jugement, un serment. Un serment qui fait que le jugement est définitif. On ne peut pas le reprendre, on ne peut pas le casser. Étant donné qu'il est prononcé sous serment. Et ce jugement comporte 2 parties. La condamnation à mort de ce riche. 2e partie, la compensation qui est prévue dans le texte de l'Exode. Il a volé une brebis, donc il doit rendre 4 brebis. Ce qui est prévu. La question, c'est pourquoi est-ce que David en va plus loin que ce que la loi prescrit, ce que la loi prévoit. Pourquoi la condamnation à mort? Vous voyez, le texte dit « pour avoir manqué de cœur ». C'est-à-dire pour avoir ce n'est pas simplement un vol, mais c'est un acte, on pourrait dire, qui lèse pas seulement les biens de quelqu'un, mais sa personne, qui en quelque sorte touche à cette relation, on pourrait dire, d'affection du pauvre à l'égard de la brebis qu'il possède. Vous voyez, l'acte commis, et c'est ce que perçoit bien David, c'est que l'acte commis ne consiste pas simplement à priver quelqu'un d'un de ses biens, une bagatelle, n'est-ce pas, surtout si on remplace une brebis par 4 brebis, mais il touche, on pourrait dire, à quelque chose qui relève de l'identité de ce pauvre. N'est-ce pas? Quelque chose qui relève de sa joie de vivre. N'est-ce pas? On lui a pas seulement pris quelque chose, un bien que l'on pourrait remplacer, on a touché, on pourrait dire, à sa relation, à sa propre vie, à sa joie de vie. Et c'est ainsi que il y a cette double peine. La mort pour cette atteinte à la vie du pauvre et la réparation pour le vol. Donc, voyez, le premier jugement est en relation avec l'absence de pitié, avec l'atteinte à quelque chose qui touche la vie de quelqu'un et la réparation, je dirais, pour la soustraction de certains biens. Voici la réponse de Nathan. Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai oint comme roi d'Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître, et j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si c'est trop peu, je veux y ajouter autant. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui-même, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, voici je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison, je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil, car toi tu as agi en secret, mais moi je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. Vous voyez, nous avons vu que il y a un double jugement. David à l'égard du riche qui a pris la brebis. Nathan annonce à David le jugement de Dieu. Sa faute, elle est double. D'une part, il a méprisé la parole de Dieu, il a méprisé la promesse de Dieu, il a méprisé, je dirais, la volonté de Dieu et le don de Dieu. Et d'autre part, il a détruit une famille. Vous voyez, David, comme le riche, voyez, le riche dans le regard de David n'a pas seulement transgressé un commandement qui concerne un interdit, qui concerne le vol. De la même façon, tel que Nathan le lui montre, il n'a pas seulement détruit une famille, il a méprisé la parole de Dieu. Voyez-vous, on rappelle tout ce que Dieu a fait pour lui. La manière dont Dieu s'est engagé à son égard, le fait de commettre un rapt, de prendre la femme d'un autre, mais le fait de la prendre, le simple fait de la prendre, n'est-ce pas, dans la manière dont il fait, dont il s'empare de Bethsabée, il n'y a aucune réciprocité, n'est-ce pas, il s'en empare. Et si vous voulez, cet acte même de s'emparer d'une femme est un acte qui ne laisse pas d'espace où il peut reconnaître ce qui lui est donné. Vous voyez, quand vous accaparez quelque chose, quand vous vous appropriez quelque chose et quand vous vous appropriez cela violemment, vous ne laissez pas de place pour la reconnaissance de ce qui vous est donné. Et si vous voulez, c'est là qu'il y a un mépris à l'égard de la parole de Dieu. C'est-à-dire une forme d'ingratitude, une forme de non-reconnaissance du don à travers lequel s'exprime la Seigneurie de Dieu. Et cette non-reconnaissance, n'est-ce pas, consiste d'une certaine façon à s'enfermer, à ne pas, consiste à pour conséquence le fait de ne pas pouvoir reconnaître sa faute. Considérer qu'au fond, ça n'est rien. Avec la mort du riz, le cas est réglé, continuons. Vous voyez, il y a donc à la fois ingratitude et mensonge. Premier aspect de l'affaire, de la faute, le premier aspect de la faute de David, c'est mépriser Dieu. Et ce mépris de Dieu mérite la mort. L'autre aspect de la faute de David, qu'il ne faut pas oublier, il a détruit une famille. Dans la conception d'Israël, une famille, ça n'est pas rien. Parce que la famille, c'est à travers la famille que se réalise le droit de tout Israélite, de tout participant au peuple, d'avoir une descendance. Et le roi est là pour protéger ce droit. C'est pas hittite. Le Uri, dont on dit qu'il est un Hittite, est sans doute un mercenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est intégré comme combattant, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Et donc, un individu dont le droit doit être particulièrement protégé. Et donc, il y a ici, n'est-ce pas, une faute à l'égard de Urs. Et ici aussi, la peine va être double. Il y a la condamnation à mort pour la mort que mérite le fait d'avoir méprisé la volonté de Dieu, et puis le fait de les femmes de David vont lui être prises et il va y avoir des querelles, sa maison va être déchirée par des querelles fraternelles. Voilà le jugement qui est annoncé par Nathan à David. Voyons encore la réaction de David. David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan dit à David, « Le Seigneur de son côté a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Mais puisque dans cette affaire tu as gravement outragé le Seigneur, ou plutôt ses ennemis, le fils qui t'est né, lui mourra. » Et Nathan s'en alla chez lui. David se repent. David reconnaît sa faute. Et ce repentir fait que David ne meurt pas. Vous voyez, bien que David a condamné le riche à mort, la mort ne l'atteint pas lui. Elle ne l'atteint pas parce que le repentir opère ce que la mort aurait dû opérer, c'est-à-dire mettre David devant la reconnaissance de la conséquence de ce qu'il a fait. Si vous voulez, nos actes ont des conséquences. Et le châtiment, l'idée du châtiment, c'est pas simplement la volonté de Dieu de nous punir, mais le châtiment, c'est une manière de nous confronter aux conséquences de ces actes. Le repentir entraîne donc le pardon de Dieu, et la marque du pardon, c'est que David ne meurt pas. Mais le pardon ne signifie pas l'absence de tout jugement. Le pardon ne signifie pas qu'il n'y a pas des conséquences de l'acte commis. Le pardon ne signifie pas que la victime mérite des réparations, même si cette victime est morte. Et vous voyez, l'acte va avoir des conséquences dans le fait que l'enfant va mourir, et puis dans la suite du récit, quatre enfants de David vont mourir. N'est-ce pas? Il a pris, et sa vie, n'est-ce pas? Il a commis un rapt, et sa vie va être, elle est entrée dans cette logique du rapt. Les conséquences ultimes du rapt, la mort lui est évitée, mais les conséquences de son acte vont se produire dans la suite du récit. En même temps, Dieu, le pardon, ne se manifeste pas seulement dans le fait que David ne meurt pas, mais dans le fait que Dieu reste fidèle à David et à la maison de David, et après la mort du premier enfant de Bethsabée, la promesse n'est pas abolie, et un second enfant de David et de Bethsabée, qui va être Salomon, va non seulement vivre, mais succéder à David. Vous voyez, et j'attire votre attention parce que c'est extrêmement important, le récit distingue le pardon de Dieu qui suspend la peine qui vise au fond la personne de David, la peine de mort, mais elle ne supprime pas le devoir de réparation, ce qui touche aux conséquences de l'acte et à la responsabilité du coupable. Il me semble qu'il y a là un enseignement extrêmement profond, à savoir que le pardon ne supprime pas le jugement. Vous voyez, on pourrait... Je parle un petit moment du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a à la fois l'annonce du pardon et l'annonce du jugement. Vous serez jugés, n'est-ce pas, tout le thème du jugement dernier, vous serez jugés, mais quand il est parlé du jugement, vous serez jugés selon vos actes. Et voyez-vous, on pourrait dire que cette distinction du pardon et du jugement correspond à la distinction entre la personne et les actes ou les œuvres. C'est-à-dire que le pardon s'adresse à notre personne. C'est notre personne, la personne que nous sommes devant Dieu, qui est réhabilitée. Mais cela ne signifie pas que nous devons être, en tant que personnes, purifiés, délivrés des actes que nous avons commis. Et la manière d'être purifié, délivré de ces actes, c'est le jugement. C'est-à-dire que même s'il y a le pardon, nous ne sommes pas dispensés, nous gardons la responsabilité de ce que nous avons fait, c'est-à-dire la nécessité de réparer. Voyez-vous, je prends simplement le cas, par exemple, un cas que vous connaissez tous, n'est-ce pas, cet homme de la Gestapo qui s'appelle Barbie, qui a été pendant longtemps, qui s'est caché parmi des religieux. Et des religieux qui l'ont caché au nom du pardon. Mais au nom du pardon, ils ont cru qu'ils pouvaient éviter la justice. Et je crois que là, il y a une manière perverse de comprendre le pardon, parce que le pardon est une chose, le jugement est une autre chose. Et que le pardon ne signifie pas du tout qu'on puisse échapper au jugement, c'est-à-dire à la responsabilité des actes que l'on a commis, et je dirais même que le pardon, c'est ce qui nous permet de faire la vérité sur nos actes, c'est-à-dire d'en prendre véritablement la responsabilité. Vous voyez, je conclue, j'ai été un peu long, excusez-moi, je conclue sur un aspect, n'est-ce pas, sur cet aspect que j'avais annoncé au début, c'est-à-dire qu'est-ce que ce récit de David nous apprend de la manière dont Dieu est fidèle à son alliance lorsque le partenaire humain de l'alliance est infidèle à cette alliance. Dieu intervient pour mettre une limite au mal. Je vous rappelle, n'est-ce pas, ce qui est dit, n'est-ce pas, ce qu'avait fait David déplut au Seigneur. Dieu intervient pour combattre le mal. Mais que signifie combattre le mal? Comment est-ce que Dieu triomphe du mal? Et ce que nous voyons, c'est que triompher du mal, pour Dieu, cela signifie conduire l'être humain au repentir. Le repentir est la véritable, aux yeux de Dieu, la véritable victoire sur le mal. Et ce qui vient d'extraordinaire, c'est la pédagogie. Vous voyez, Nathan ne vient pas en accusateur. Il ne vient pas vers David en lui disant, n'est-ce pas, espèce de criminel, est-ce que tu as conscience de ce que tu as fait? Il lui raconte une histoire, de telle sorte que c'est par son propre jugement que David va être jugé. Mais encore plus, à travers son histoire, n'est-ce pas, cette histoire que l'on pourrait appeler une parabole. Et c'est ce qui est significatif aussi, et c'est au fond aussi, on pourrait dire, une réception de la tradition de David. Un des modes privilégiés de l'enseignement de Jésus de Nazareth, c'est précisément de raconter des paraboles. Des paraboles qui ont la même action, que le même type d'action que la parabole que raconte Nathan. Or, la force de cette parabole, c'est qu'elle fait appel, on pourrait dire, chez David, à la capacité de se mettre à la place de l'autre. Si vous voulez, le ressort du repentir, c'est cette capacité de compassion, la capacité de comprendre le mal subi par l'autre. Parce que c'est sur la base de la compréhension du mal subi par l'autre que l'on peut reconnaître le mal que l'on a commis, puisqu'on est l'auteur du mal que l'autre a subi. Vous voyez donc que, à travers cette petite histoire, Nathan favorise cette prise de conscience. Il s'appuie sur la capacité de compassion qu'il y a en David, et peut-être en tout être humain, si on veut bien essayer de l'éveiller. L'histoire de David, précisément, réveille cette capacité de compassion qui est la source de son repentir. Je m'arrête là en vous remerciant pour votre attention.
Avant toute chose, merci. Merci de cet éclairage, même si beaucoup, je pense beaucoup d'entre nous connaissaient cette histoire. Et tout au départ, je me disais, pourquoi nous parlez-vous de cela ? Et je comprends, tout à l'heure, vous m'aviez dit, oui, c'était peut-être pas vraiment l'alliance, j'avais pas pensé à ça, mais c'est fantastique. C'est au contraire, ô combien, je trouve, vous avez pu nous éclairer sur une problématique tellement humaine de la place de Dieu et de l'homme. Parce que là, vraiment, même si c'est très psychologique, on pourrait le travailler en analyse, ce que vous avez dit, c'est tout à fait cela, éveiller la compassion, avoir ce regard sur l'autre pour comprendre soi-même ce que l'on n'a pas bien fait. Et puis dans la tradition juive, il est sûr, j'espère que les amis réagiront de cela, le jour de Kippour, c'est pas seulement que Dieu pardonne, il va pardonner, mais il nous demande d'aller déjà vers les autres, demander pardon sur ce que nous n'avons pas bien fait, et de revoir justement tout ce que nous avons mal mis en œuvre dans l'année, en prendre conscience, et puis faire un peu, oui, une forme, nous on ne le juge pas, mais lui il juge. Et moi ça m'a toujours choquée d'ailleurs, j'ai trouvé ça toujours difficile. Dieu nous juge, mais il juge pour nous pardonner. Ce soir, ce que vous avez dit m'a donné un autre éclairage qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus tendre de la compassion même de Dieu, même si c'est dur quand même, hein, tout ce qui arrive à David, mais en même temps, tout le chemin que David parcourt et qui fait parcourir à l'humanité, ça c'est remarquable. Merci. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir plein de questions. Je laisse la parole sur Albert.
Alors par cette approche, on a assez rapidement un éclairage sur le monde contemporain d'aujourd'hui. Alors par rapport à cette articulation entre le pardon et le jugement, cette nécessité aussi du jugement après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les différentes puissances se sont dit on ne peut pas rester comme ça en 1945 avec toutes les atrocités. Et j'ai pensé au procès de Nuremberg. Cette nécessité aussi, pour la reconstruction de l'Europe, pour pouvoir une articulation aussi tout de même entre pardon et jugement, pour pouvoir faire le deuil, pour amener aussi à préciser la responsabilité et les conséquences des actes. Alors évidemment, le procès de Nuremberg, il n'a pas été parfait aujourd'hui, mais aujourd'hui quand même beaucoup d'historiens s'accordent qu'il a été nécessaire pour, dans le cadre du repentir, de la responsabilité. Et il a servi de modèle, puisque aujourd'hui, je pense à la Cour internationale de la paix, aujourd'hui, que ce soit les humanistes ou tous ceux qui sont, nous tous, nous nous retrouvons dans des démarches spirituelles à travers un certain nombre d'organismes internationaux, on sait aujourd'hui que par rapport à chaque atrocité qui se passe sur la planète, il faudra quand même appeler un procès. On sait que pour cicatriser des génocides, comme en Afrique, il y en a, comme ce qui s'est passé aussi récemment dans les Balkans, en Europe, l'ex-Yougoslavie. C'est important. C'est important, il faut rendre des comptes, il faut pouvoir retrouver les assassins, retrouver les criminels. Mais c'est bien pour les deux parties. Parce que qui est perdant dans un procès, dans l'acte de jugement? Mais personne. Moi, je pense que si on reprend par rapport à la Shoah, le procès de Nuremberg, mais je pense que ça a été les fondations de la nouvelle démocratie allemande. L'Allemagne avait besoin, les Allemands avaient besoin de ce procès de Nuremberg pour préciser les responsabilités des différents dirigeants nazis. Ce procès, certes, on l'a trouvé trop long, une organisation difficile. Bon, pour conclure, cet enseignement va nous aider et reste d'une actualité profonde. Je crains que malheureusement, sur cette planète remplie de violence, il y aura d'autres procès, d'autres jugements, et que j'espère que nous arriverons à organiser ces jugements qui vont s'articuler avec le pardon et avec le deuil. Car pour les victimes, comme pour les responsables, la mise en place du jugement, hein, si vous avez compris quoi c'est percuté, est indispensable, même pour renforcer et consolider le pardon, et pour aider autant les anciens bourreaux que les victimes. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu là.
Merci, François.
Oui, je voudrais dire quand même, je crois que, en ce qui concerne le procès de Nuremberg, je crois que il faut en tout cas distinguer le procès de Nuremberg de la problématique du pardon et du repentir. Les accusés ont été confrontés à une accusation et leur attitude a été une attitude, pour autant que je sache, une attitude de justification, n'est-ce pas, de justification, c'est-à-dire je ne suis pas responsable, j'ai exécuté les ordres, enfin pour dire les choses de façon... Il y a un livre que je trouve assez remarquable, en tout cas, j'ai trouvé parmi les livres que j'ai lus sur cette question, un des plus profonds que j'ai lus, c'est un livre qui s'appelle « Au cœur des ténèbres » ou, je crois, d'une journaliste qui s'appelle Gita Sereni, et ce sont des entretiens avec le chef d'un camp, je ne me souviens plus, d'un camp d'extermination, je ne me souviens plus lequel, et je ne me souviens plus le nom de ce camp, et elle a des entretiens avec lui. Et on voit, au fond, comme peu à peu, on pourrait dire, il commence à prendre conscience de ce qu'il a fait. Et au moment où il est, disons, devant cette prise de conscience, il meurt. N'est-ce pas ? Et je trouve que là, c'est là que le problème... si vous voulez, c'est pas devant un tribunal que se pose le problème du pardon ni du repentir, parce qu'on juge des actes. La question du pardon et du repentir, elle met en jeu la personne, et donc elle met en jeu des relations entre des personnes. Et je pense que la problématique du pardon était en jeu à l'horizon dans ce dialogue entre Gita Sereni et ce commandant.
Je voudrais dire que ce que vous avez dit m'a fait penser très fort à Maître Badinter, qui en fait lui a lutté sa vie pour faire ce que Dieu a fait en fait. il n'a pas fait mourir le fautif. Il a refusé qu'on fasse mourir le fautif. Et donc, que ce soit qu'on lui permette de repentir par un jugement.
La possibilité voilà. De repentir.
Voilà. Enfin, j'ai pensé beaucoup à lui.
Je crois que vous avez raison. C'est bien cet aspect de la tradition biblique qui conduit à la lutte contre la peine de mort.
Je voudrais évoquer le sujet de Bathsheba, qu'on appelle Bethsabée. Est-ce que la Bible, c'est silence total sur est-ce qu'il y a eu une réaction ou pas du tout? Est-ce que c'est le silence total de la Bible?
Je ne comprends pas.
Devant ce qui s'est passé, si la Bible reste silencieuse et ne parle pas de Bethsabée, je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi on ne met pas en scène le comportement ou le sentiment de Bethsabée qui a été enlevé? Alors, comment ça se fait?
La Bible ne se tait pas, puisque...
La Bible ne se tait pas, puisque dans le livre de Samuel, nous avons lu en détail ces deux chapitres, cette histoire est racontée, jugée, n'est-ce pas? Dieu ne la laisse pas, ne laisse pas passer. Mais cher monsieur,
c'est parce que c'est une femme.
Mais bien sûr. Et d'ailleurs, vous voyez, ce qu'on dit d'elle, elle est belle, donc elle est un objet de séduction pour David. Et quand on la présente à David, elle est la fille de et la femme de. C'est-à-dire qu'on ne la présente pas en tant qu'elle, on la présente par ses relations dans sa place dans la société.
Son personnage est occulté.
Oui. C'est-à-dire...
Parce que ce n'est pas possible qu'elle n'ait pas eu un sentiment. Elle a dû, oh, le roi me kidnappe, je suis heureuse. Elle a dû se dire quoi? Quel horrible roi.
Moi, je pense que vous êtes
à l'enfant qui meurt.
Moi, je pense que c'est à l'enfant qui meurt. En tant que mère, elle sait cet enfant. Qu'est-ce qu'on dit à elle? C'est une super question.
Parce que
c'est le problème de la place de la femme.
Si David, d'un autre côté, si David n'a pas, que Dieu a voulu que David ne meure pas, il a vécu dans des souffrances. Il a perdu le premier enfant, mais il a perdu Absalom, et peut-être d'autres. Évidemment, il a eu Salomon, mais est-ce qu'il était vivant encore, David?
Ce que je dirais, l'indication, il y a une indication dans le texte qui irait un peu dans votre sens, c'est, voyez, David prend d'abord Bethsabée, et puis ensuite, il est dit, après la mort d'Uri, il la prend pour femme. C'est-à-dire qu'elle n'est plus simplement une prise, un objet, dont il s'approprie. C'est-à-dire que la relation de David et de Bethsabée change de nature. Mais c'est vrai qu'au moment de la mort de l'enfant, on parle de la douleur du jeune de David, on ne parle pas de la réaction de Bethsabée.
Et par contre, la Bible dit qu'elle a pleuré son mari.
Oui.
Et qu'elle a, voilà un élément qu'on connaît maintenant, mais savez, elle a pleuré et elle a respecté un deuil. C'est assez énorme quand même.
Alors, merci d'abord pour l'exposé. Moi, je reviens sur la question du pardon. Donc, vous disiez qu'il ne signifie pas l'absence de jugement, donc dans l'histoire de David, et puis vous avez parlé aussi du Nouveau Testament, où effectivement, on nous dit « vous serez jugé », voilà, vous êtes pardonné, mais vous serez jugé. Alors, j'aimerais juste vous entendre sur quand même l'articulation qui peut être faite entre pardon et jugement, entre la première alliance et la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Voilà, qui pour moi, il y a quand même voilà, quelque chose qui se joue aussi. Là, comment on peut, quel mot on peut poser sur ce nouveau pardon ou ce nouveau jugement, voilà, je ne sais pas.
Je dirais que sur la question du rapport entre pardon et jugement, il n'y a pas de différence entre les deux alliances. D'ailleurs, la seconde alliance, que quand on parle de nouvelle alliance, il s'agit de renouvellement de la première, d'ailleurs renouvellement d'ailleurs annoncé dans des textes prophétiques, chez Jérémie ou chez Ézéchiel, il s'agit de renouvellement de la même alliance. Et par exemple, parmi les théologiens qui ont surtout souligné ça, je dirais, Calvin. L'objet de la nouvelle alliance est absolument le même. Dieu agit de la même manière dans la nouvelle alliance que dans la première alliance. Vous voyez, j'ai analysé le texte concernant David, mais on pourrait dire de la même chose du récit, n'est-ce pas, de Joseph. La manière dont Joseph amène ses frères à se repentir. N'est-ce pas ? Ses frères qui, de la même manière, ont vendu un frère, donc, d'après la loi, méritent la mort. N'est-ce pas ? De la même manière, il conduit les frères à prendre conscience de ce qu'ils ont fait à David, et à un moment, n'est-ce pas, il veut garder Benjamin. Et puis, le frère qui a vendu Joseph dit « Je prends la place de Benjamin ». Voyez, si vous voulez, l'importance de le repentir, au fond, se fonde sur la capacité de prendre la mesure des conséquences de ce qu'on a fait. C'est-à-dire sur la capacité de ce qu'on appelle la compassion, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, c'est exactement ce que fait, je crois que c'est Judas. N'est-ce pas, Judas, un des fils de Jacob, il se met à la place de Benjamin. Vous voyez, et donc, il prend en quelque sorte, symboliquement, la place de Joseph. Et c'est à ce moment. Or, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, l'idée de la mort de Jésus, de la même façon, Jésus prend la place. N'est-ce pas ? Si vous voulez, il manifeste de cette manière la compassion et le pardon de la part de Dieu. N'est-ce pas ? En prenant sur lui les conséquences du mal. Et donc, il me semble que, voyez, le lien entre pardon et jugement est tellement, je dirais, tellement le même dans la première alliance et dans la seconde, qu'on ne pourrait pas comprendre, n'est-ce pas, ce qui est au centre du Nouveau Testament, c'est-à-dire la mort de Jésus comme révélation du pardon de Dieu, si on ne pouvait pas le comprendre à partir de la compréhension de la compréhension dans la première alliance de ce qu'est le pardon. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Encore pour mettre... voyez, aujourd'hui, encore quelque chose qui concerne cette relation entre pardon et... entre pardon et jugement. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a des tentatives en ce sens, la justice réparatrice. C'est-à-dire que quelqu'un a été condamné pour un crime et il y a des cas où on demande aux victimes, aux coupables, s'ils acceptent de se rencontrer. Et il y a en quelque sorte toute une démarche à travers, c'est-à-dire une démarche de rencontre à travers laquelle on restaure une relation. Une relation qui a été brisée par le crime. Ce qui relève de la réparation, c'est-à-dire le coupable a payé pour le crime qu'il a commis. Il a subi une peine. Et, je dirais, le crime a été reconnu publiquement. Et pour les victimes, c'est important qu'on reconnaisse le crime dont elles ont été victimes. Mais c'est d'un autre ordre de restaurer une relation. N'est-ce pas? Et là où cela a pu avoir lieu, des délinquants ont pu avoir l'occasion de dire que les paroles qu'ils ont entendues de leur victime, qui n'étaient pas nécessairement des paroles de pardon, mais des paroles de reconnaissance personnelle, des choses qui étaient dites de personne à personne, étaient des paroles dont elles se souvenaient quand elles étaient tentées de recommencer. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance personnelle et donc de la réhabilitation qui permet à quelqu'un de tenir face à des difficultés ultérieures. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne relève pas de la justice qui concerne les actes et de la réparation qui concerne ces actes ou du châtiment qui concerne ces actes. Vous voyez, c'est-à-dire que même la justice humaine peut intégrer parfois, exceptionnellement, quelque chose qui relève du pardon. Et madame voudrait encore ajouter.
Ça me titille un peu, en fait, de dire que c'est pareil. Mais peut-être que ce que je... Bon, en fait, j'essaie de réfléchir en même temps. Peut-être, du coup, je mettrai dans l'histoire de David et dans cette tradition-là, peut-être le pardon, conséquence du repentir. Et je mettrai, il me semble, dans la nouvelle alliance, dans la seconde alliance, le pardon, le préalable du repentir. Le pardon qui mène au repentir. Il me semble que ce pardon-là, il est donné sans compassion de l'homme d'abord. Voilà, mais bon, ça c'est peut-être un autre débat.
Mais je crois que c'est bien parce que le pardon est premier, c'est bien parce que Dieu pardonne avant même le repentir, qu'il a cette démarche. Il n'a pas une attitude, il n'a pas une démarche d'accusation. Dieu ne veut pas condamner David, il veut essayer que David reconnaisse sa faute et redevienne l'enfant de Dieu que Dieu souhaite qu'il soit. Oui, c'est bien parce que le pardon est premier, parce que la volonté première de Dieu, c'est de pardonner, ça n'est pas de condamner. Mais le pardon n'existe pas, on pourrait dire que le pardon n'est rien s'il n'est pas reçu. Le pardon, il a une efficacité, n'est-ce pas? La parole de Dieu, comme dit Isaïe, ne revient pas sans effet. Eh bien, si, une parole de pardon, elle a une efficacité. Et donc, le pardon se traduit par le repentir. On peut pas, il ne faut pas dire que le repentir est condition du... ni dans la Bible hébraïque, ni dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Quand nous disons, par exemple, dans le Notre Père, pardonne-nous comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés, ça ne veut pas dire que le fait que nous pardonnions est la condition pour que Dieu nous pardonne. Mais quand nous pardonnons, nous le fait que nous pardonnions est notre manière de recevoir et de vivre du pardon que Dieu nous accorde.
On dit que faute avouée est à moitié pardonnée. Je ne sais pas si c'est avant ou après, mais en tout cas, ce que je veux savoir, par exemple, quand un problème comme le génocide arménien, où les gens, enfin, où les Arméniens ne veulent pas reconnaître, ils sont les Turcs, ou les Turcs, ce génocide arménien, est-ce qu'ils sont quand même pardonnés?
Tout d'abord, je voudrais souligner le terme que vous avez employé, vous avez dit « faut avouer ». L'aveu est quelque chose d'extrêmement important, parce que l'aveu est quelque chose qui est de l'ordre de la relation personnelle. Vous voyez, il n'y a pas de relation personnelle entre deux êtres sans... c'est un philosophe lyonnais, un philosophe de l'école personnaliste qui s'appelle Jean Lacroix, vous avez peut-être entendu parler de lui, moi je l'ai connu à Lyon, et Jean Lacroix disait, au fond, une des caractéristiques de la personne, c'est l'aveu, la capacité de s'avouer. Et il n'y a pas de relation, de relation personnelle sans une mise en jeu de son intimité. N'est-ce pas ? Dans la vie sociale, nous sommes là en tant que nous jouons des rôles. N'est-ce pas? Nous sommes jamais totalement à découvert. N'est-ce pas? C'est seulement dans l'intimité d'une relation que nous pouvons nous avouer. N'est-ce pas? Dire nos faiblesses, dire quelque chose de nos fautes, dire nos angoisses, dire nos espérances, ce qui nous anime, ce qui anime notre cœur. Et donc, je crois que certainement que repentir et aveu sont deux termes d'attitudes qui vont ensemble. Maintenant, encore une fois, vous parlez, est-ce que les Turcs sont pardonnés? La volonté de Dieu et ce dont nous sommes porteurs en tant que juifs, comme chrétiens, c'est d'être témoins de cette volonté de Dieu de pardonner. Mais un pardon n'a de sens que s'il est reçu. Le sens du pardon, c'est une démarche de réconciliation. Si le pardon n'est pas reçu, pardon reste en l'air, n'est-ce pas ? Il ne se réalise pas. Parce que le poids, la vérité d'une parole de pardon, c'est les effets qu'elle a. N'est-ce pas? Prenez simplement une analogie. Vous dites à quelqu'un, je vous aime. Et puis l'autre vous répond, ça ne m'intéresse pas vraiment, je ne suis pas dans cette histoire. Eh bien, rien ne se produit. N'est-ce pas? Si vous dites à quelqu'un, je t'aime, et l'autre répond, je t'aime aussi, une histoire commence. Et quelque chose de commun, quelque chose d'inédit, qui va s'inventer. Eh bien, je dirais, une parole de pardon qui n'est pas reçue, c'est la même chose. Elle reste en suspens.
Je vais parler très simplement du pardon. Nous sommes tous pareils, mais non, c'est pas ça. Je vais parler de l'amour de Dieu. Nous avons tous besoin d'être aimés de Dieu, et comme c'est écrit, Dieu est amour. Mais ce n'est pas un objet, et le pardon non plus. Si vraiment, parce que nous pouvons tous être chacun, en tout cas, je pense, se sentir écrasé par les fautes qu'on a commises, par ce qu'on n'a pas fait ou à côté,
et on se rend compte même souvent beaucoup plus tard, et pas au moment même, parce que nous sommes humains. Et là, il y a quelque chose maintenant, j'ai été élevée dans la foi chrétienne, je vais tout de suite le dire, je ne m'excuse pas, c'est comme ça. Mais il me semble, l'amour de Dieu, dont nous avons tellement besoin, le pardon aussi, parce que quand on a commencé une fois à se rendre compte qu'on est pardonné, mais ce n'est pas un objet qu'on prend, qu'on se met dans sa poche et on l'a une fois pour toutes. Je pense que tous les jours, parce que sinon on s'écraserait dessous tout ce qu'on a commis ou n'est pas fait. Si on ne peut pas tous les jours recommencer en se disant merci, je peux accepter l'amour qu'on me donne et merci, je peux accepter le pardon. Alors, quelque chose qui me chiffonne un tout petit peu, et ça je ne peux pas donner de réponse, c'est le jugement dernier. Et ça se met presque un peu comme un poids sur moi, parce que finalement on se dit, si le jugement dernier est tout de même là, eh bien le pardon n'aura pas servi à grand chose, parce que finalement ce que j'ai mal fait ou ce que j'ai fait à côté et même malgré moi, ça a eu ses conséquences. Donc les conséquences restent. Alors le jugement dernier va rester là-dessus. Et qui va gagner? Le jugement dernier ou le pardon? Voilà.
En ce qui concerne le jugement dernier, je crois qu'il faut se débarrasser, enfin il faut en tout cas dépasser tout ce qui était de l'ordre de ce qu'un historien Jean Delumeau a appelé une pédagogie de la peur. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on annonçait le jugement dernier pour terroriser, n'est-ce pas? Et puis, si vous vous souvenez des lettres de Montmoulin de d'Alphonse Daudet, n'est-ce pas, il y a le curé de Cucugnan qui raconte au fond une sorte de description du jugement dernier, enfin de ce qu'il a vu en enfer. Je crois il faut comprendre le jugement dernier comme une expression du pardon, comme une expression de l'amour de Dieu et de la volonté de Dieu de nous sauver. Parce que, si vous voulez, nous ne savons jamais tout à fait ce que nous avons fait de mal comme ce que nous avons fait de bien. Peut-être que nous surestimons certaines actions, nous en sous-estimons d'autres, nous surestimons certains mal que nous avons fait, et souvent nous sous-estimons aussi le mal que nous avons fait, dans le mal comme le bien. Et donc, le jugement est d'abord, je dirais, une œuvre de vérité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être délivrés de nos fautes, purifier, il y a une expression de l'apôtre Paul à un moment, n'est-ce pas, purifier comme par le feu, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas être purifiés de nos fautes s'il n'y a pas un moment de vérité sur ce que nous avons fait. Vous voyez, cette distinction du pardon et du jugement, j'ai dit tout à l'heure qu'elle correspond à la distinction de la personne et des actes. Cette distinction de la personne et des actes, je crois qu'elle est un des fondements de la conception chrétienne de l'être humain. Et qu'elle est quelque chose de fondamental, qui a eu une importance capitale dans la conception de la morale, du droit, dans l'histoire européenne. N'est-ce pas ? Encore aujourd'hui, n'est-ce pas, on fait place, par exemple, à la notion de l'intention quand on juge quelqu'un. Des motifs, il y a des circonstances atténuantes. Voyez-vous, la distinction de la personne et des actes, ça, c'est une manière de dire que nous sommes plus que les actes que nous avons commis. Si nous avons commis un vol, nous ne sommes pas pour autant un voleur. Si nous avons commis un meurtre, nous ne sommes pas pour autant un meurtrier. Et vous voyez, la distinction entre la personne et les actes, c'est une manière de dire nous sommes aussi autre chose, davantage que l'acte que nous avons commis, et donc nous avons la possibilité d'être un autre que cet acte que nous avons commis. Et si vous voulez pardonner, c'est une manière de dire, n'est-ce pas, tu peux te dissocier de l'acte que tu as commis, et tu peux le corriger par d'autres actes. Tu peux être un autre que ce meurtrier. David qui se repent n'est plus David, n'est plus simplement David qui a pris Bethsabée et qui a fait tuer son mari. Vous voyez, et c'est, si vous voulez, la réalité du pardon, c'est cette capacité que Dieu nous donne d'une vie nouvelle, malgré ce qui devrait la condamner. Parce que commettre certains actes, c'est lourd à porter, même si on vous dit que vous êtes pardonné. N'est-ce pas, certains actes graves. Je pense par exemple à des personnes qui ont fait une tentative de suicide. J'en ai accompagné en tout cas deux. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas effacer. Le fait que vous ayez fait une tentative de suicide, c'est quelque chose que vous allez porter toute votre vie. En même temps, vous ne savez pas exactement quels ont été, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu là. C'est quelque chose qui vous met aussi en face de votre mystère, de ce qu'il y a en vous. Et c'est précisément le pardon qui aide à vivre avec ce mystère. Mais en même temps, c'est quelque chose dont vous attendez d'être libéré. Et si vous voulez, la fonction du jugement dernier, c'est de faire la vérité sur les actes que nous avons faits, précisément pour nous en libérer. Et il me semble que c'est ainsi qu'il faut comprendre le jugement dernier. C'est-à-dire comme un acte qui exprime la volonté première, la volonté unique de pardon de Dieu. Vous voyez, il y a un théologien lyonnais aussi, un théologien qui était un jésuite qui s'appelait François Barillon. Et ça a été pour moi très, très, très éclairant, n'est-ce pas, lorsque j'ai lu cela. François Barillon disait, le message de la Bible, est, qui est affirmé en toutes lettres dans la première épître de Jean, dans le Nouveau Testament, Dieu est amour. Et dire que Dieu est amour, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire de Dieu est une manifestation, une expression de son amour. Quand on dit par exemple que Dieu est tout-puissant, la toute-puissance de Dieu, ça n'est pas n'importe quelle toute-puissance, c'est la toute-puissance de l'amour. Et l'amour se manifeste d'une certaine manière, l'amour ne fait pas violence. Et donc, la toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance qui nous fait violence. Et vous voyez bien qu'à l'égard de Nathan, à l'égard de David, Dieu ne lui fait pas violence. Au contraire, il cherche à ce que de lui-même, il trouve le chemin du repentir. Et donc, de la même manière, quand Dieu punit, le Dieu qui punit est la punition par Dieu est une expression de son amour. Et le jugement aussi est une expression de son amour.
Merci, c'est un magnifique exposé que vous nous avez fait. Et c'est vrai que la psychanalyse va dans ce sens aussi, c'est-à-dire exprimer une parole pour pouvoir convertir quelque chose et comprendre. Mais nous, dans notre tradition hébraïque, ce jour de Kippour, c'est 25 heures où nous allons, ou en tout cas 12 bonnes heures. Les autres, nous dormons, mais sans manger, sans boire, c'est-à-dire sans participation de notre corps sur la réflexion de ce que nous avons fait pendant toute une année. Alors bien sûr, le livre de prière nous aide en cela, mais c'est dans cette pensée d'un jugement de Dieu qu'il va faire sur nous chaque année. C'est peut-être pas le dernier de l'année, mais pour certains ça peut être aussi le dernier de l'année. Mais il est sûr que c'est pour accéder au pardon, puisque ce jour-là s'appelle le grand pardon. Mais tout ce que vous nous dites, ça résonne tout à fait parfaitement, cette capacité de nous connaître et non pas d'agir seulement sur des pulsions, ce qu'a fait David quand même. Hein. Il a agi sur une pulsion, il devait être très jeune, et après il lui a fallu tout ce temps, puis je me dis que c'était pour ça qu'il a écrit les psaumes, en partie. Il avait besoin d'exprimer autrement. Alors, il y a Norbert.
Merci. Moi, je voudrais vous dire d'abord trois immenses merci, et puis poser une question qui a été posée sous d'autres formes. Je voudrais l'aborder d'une autre manière, parce que c'est une question qui me taraude au plus haut point. D'abord, trois merci. Premier merci, c'est pour la manière dont vous placez, lors de chacune de vos interventions, les protestants ont l'habitude de vous connaître, parce que souvent vous ouvrez la semaine thématique, et vous nous ouvrez le champ de la compréhension, ce que les intervenants de la semaine thématique vont nous apporter. Et là, vous avez en fait une manière de placer les projecteurs sur les textes, une manière qui met en lumière ces textes qu'on n'a pas trop l'habitude d'aborder, donc qui contribue à renouveler la manière dont ces textes peuvent nous interpeller. Donc, premier merci. Deuxième merci, c'est pour une... Vous avez dit plein de choses magnifiques, mais alors il y a tout au début, il y a une définition qui m'a vraiment marqué. Vous avez dit, triompher, je ne sais pas, il y a textuel, mais triompher du mal, c'est pour Dieu conduire l'homme au repentir, à la réparation du mal commis. Ce que vous avez dit rejoint en fait une parole de Charles Maupetit, le regretté Charles Maupetit, qui disait, le repentir est moins un acte de contrition que la réflexion du dommage causé par la faute qui annule ses effets. Et troisième merci, c'est merci d'avoir souligné combien nos manquements détruisent la joie de l'autre, combien ils affectent la raison de vivre de l'autre. En Deutéronome 30, 19, Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort ». Et nos manquements aboutissent en fait à retirer la vie à l'autre, la vie que Dieu a placée devant l'autre et en l'autre. Mon interrogation maintenant, qui me taraude, c'est comment comprendre du point de vue de la mort des êtres innocents. D'abord de l'enfant premier né de David et de Bethsabée. Alors je dirais d'une autre manière, quand je commets le mal, que je me repens sincèrement, que je m'efforce réellement de réparer, Dieu m'accorde son pardon. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Il n'empêche que les conséquences du mal que j'ai commis sont là, c'est abordé par plusieurs. Les souffrances que j'ai infligées ont laissé de terribles cicatrices. Alors Dieu me donne une vie nouvelle par le pardon qu'il m'accorde, il n'empêche que la part de vie que j'ai détruite en l'autre, elle est détruite. Alors, est-ce que je dois comprendre que Dieu va intervenir pour réparer lui-même ce que moi, je suis incapable de réparer en l'autre? Parce que certes, la reconnaissance de ma faute, mon engagement sincère à réparer ce que je peux réparer, est toujours limité. C'est bien en deçà de la réparation qui doit intervenir chez l'autre. Merci.
Oui, votre question, elle touche au fond l'espérance du royaume de Dieu. C'est-à-dire que la réalité du royaume de Dieu, c'est bien la réalité de l'action réparatrice de Dieu, c'est-à-dire que, vous voyez, tout d'abord, ce que l'histoire de David montre, c'est que venir au repentir par lui-même, l'être humain ne le fait pas, n'en est pas capable. C'est bien parce qu'il y a l'intervention de David, de Nathan, que David est obligé de revenir sur l'acte qu'il a commis. Nous avons une capacité, nous-mêmes, nous avons une capacité, à partir du repentir, nous avons une capacité de réparation. Cette capacité de réparation, elle est limitée, elle, comme vous l'avez dit, elle ne supprime pas le mal fait. N'est-ce pas? Simplement, un jeune qui arrache son sac à une vieille dame, n'est-ce pas? On peut, à travers la justice réparatrice, faire se rencontrer ce jeune homme avec cette dame, de telle sorte qu'il prenne conscience du mal qu'il a commis. Il ne peut pas revenir sur le traumatisme que cette dame a subi, sur l'angoisse qu'elle va porter pendant tout un certain temps, n'est-ce pas, du fait une agression, ça n'est pas rien. Il peut, n'est-ce pas, et même si vient lui faire ses courses, ou bien lui monter son charbon, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, faire un certain nombre de services pour elle, il peut réparer dans une certaine mesure, il ne peut pas effacer. Effacer, Dieu seul le peut. Mais le pardon est précisément de nous mettre sur le chemin d'une réconciliation. N'est-ce pas? Parce que n'est-ce pas d'ailleurs, par exemple, dans l'Église catholique, le pardon, on appelle le sacrement de réconciliation. La réalité du pardon, c'est la réconciliation. N'est-ce pas? Et quand Paul, dans 2 Corinthiens 5, parle de la croix, il dit Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. N'est-ce pas? La réconciliation, c'est la réalité du pardon. Et vous avez tout à fait raison, madame, tout à l'heure, lorsque vous disiez on reçoit le pardon, puis alors, tous les jours, il faut le vivre, dire merci, et prendre conscience, et voir à quoi nous conduit ce pardon. Parce que si nous n'en faisons rien, nous laissons l'être morte. Mais à quoi cela n'est-ce pas la guérison de la culpabilité? Le pardon ne supprime pas, il supprime, si vous voulez, le caractère, je dirais, stérilisant de la culpabilité comme ce qui nous empêche de vivre, mais il ne supprime pas le fait que nous avons commis ceci et cela, avec toutes les conséquences que cela a, conséquences que nous ne mesurons d'ailleurs pas non plus entièrement. Et donc, ce que nous pouvons faire sur le chemin de la réparation, de la réconciliation, de renouer les fils, nous dirige, n'est-ce pas, vers Dieu qui seul peut accomplir cette réparation. Et je crois que c'est l'espérance de ce qu'on appelle l'espérance du royaume.
D'abord, je voudrais vous remercier infiniment pour votre manière d'éclairer comment petit à petit vient la conscience de la faute et la responsabilité. Et je voudrais reparler comme Eliane du jour de Kippour. Tout d'abord, je voudrais expliquer que les aveux et les contritions commencent la veille. Puisqu'un jour commence toujours la veille. Dieu a fait le monde et il fut soir et il fut jour. Donc on suit cet ordre de Dieu. Et donc ça commence à la tombée de la nuit et après un chant en particulier, il y a des contritions. On essaye d'avouer tout ce qu'on a pu faire, comme erreur, comme faute, comme médisance, etc. Et tout de suite après, on rappelle une phrase de la Bible hébraïque. Pour vous la traduire, je m'excuse, il faut que je m'aide de l'hébreu. Et je ferai la traduction de chaque mot. Ki bayom haze ichaper alechem. L'itaher et chem, Nicole, Hatot et chem, Lifne Adonai, Titharu, Kibayonazé, car en ce jour-ci, il vous sera pardonné pour vous purifier de toutes vos fautes devant Dieu, vous serez purifié. Et ça, quand on a fini les contritions, on chante ça à très haute voix, ça nous console quelque part, on se redresse. On dit, on est certain d'être pardonné si on fait comme David. Le mot, je l'ai oublié. Ce qu'a fait David. Et ça, c'est donc le soir, pendant à peu près 2 ou 3 heures, on doit répéter cette phrase au moins entre 6 et 10 fois, et dans la journée, je ne sais pas compter le nombre de fois où on répète cette phrase.
Il faudrait que ce soit tout petit vide.
Le mouvement de la contrition et de la renaissance, il est aussi dans le psaume 51, j'aurais dû le citer. N'est-ce pas le psaume 51 qui est le psaume de la prière de mise dans la bouche de David, justement après qu'il ait conscience de la faute avec Bethsabée que lui a révélé Nathan. Et je crois que ce mouvement de la contrition et de la renaissance, c'est-à-dire de la découverte de ce que le pardon nous ouvre un chemin. Mais ça m'est aussi l'occasion de dire, au fond, l'importance de la lecture des psaumes. Et je crois que c'est une chose que j'ai souvent l'occasion de répéter, parce que je trouve dommage qu'on ne lise pas suffisamment les psaumes, parce que je crois que une des expressions de la crise religieuse aujourd'hui, de la marginalisation des églises, c'est à la fois une cause et une conséquence. C'est, je crois que on n'a plus, la plupart de nos contemporains n'ont plus de langage pour dire les moments de joie ou les moments de malheur. les moments de tristesse. C'est-à-dire, vous voyez, si vous prenez les psaumes, prenez la diversité des psaumes, à la fois ce qu'on peut appeler les psaumes de louange ou les psaumes de supplication. Pour ainsi dire, pour toutes les situations, pour la diversité des situations de la vie, un langage nous est proposé pour prendre conscience de ce que nous vivons et pour le dire en relation avec Dieu. N'est-ce pas ? Et la connaissance, n'est-ce pas ? Il y a des situations. Je me souviens, par exemple, j'étais à côté de mon père qui était en train de mourir, et d'une certaine façon, c'est spontané, je n'ai pas cherché. Spontanément, il y a des paroles de psaumes qui me sont venues, n'est-ce pas ? Ça mange parce que j'avais lu ces psaumes, et puis... Donc, c'est des paroles qui me sont venues. Et voyez, le caractère, je dirais, apaisant, la force que cela donne pour vivre des situations et des situations difficiles, d'avoir des mots pour se les dire à soi-même. Et je dirais que il faut aussi comprendre, je dirais, le désarroi de beaucoup de nos contemporains de ne pas avoir de langage. Et ça, je crois que on peut voir aussi ce qu'a été la force d'une éducation. Vous voyez, j'ai parlé de pédagogie à propos de Nathan, mais il y a une pédagogie que nous propose la Bible à travers les psaumes. En quelque sorte, des chemins de réponse à ce que nous vivons, des chemins de réponse en relation avec la présence de Dieu nous sont proposés. Et c'est donc autant de voies de guérison.
Je voulais savoir si un a fait le même chemin que David. Dans le pardon de sa faute d'avoir tué son frère, en l'occurrence son frère.
J'ai pas entendu qui.
Est-ce que Cain a fait le même chemin que David dans la reconnaissance de sa faute?
Il y a un grand psychiatre juif qui s'appelle, juif comme Freud, qui s'appelle Léopold Zondi, et Zondi a écrit deux livres, un sur Cain et l'autre sur Moïse. Je vous rappelle que Moïse aussi est un meurtrier. Moïse est un meurtrier, et un meurtrier qui est le législateur. C'est-à-dire que le chemin, je dirais le travail de la faute commise, elle a abouti en Moïse dans le fait qu'il donne la loi, et notamment l'interdiction du meurtre. N'est-ce pas ? Ce qui montre au fond la fécondité de la démarche de repentir. Ce que l'on sait de ce que la Bible dit de Cain, je ne sais pas ça, si ça permet de penser qu'il y a cette démarche de repentir. Parce que Cain, vous voyez aussi, Dieu ne le condamne pas à mort tout de suite. Il met même un signe sur Cain pour le protéger, c'est-à-dire pour diminuer les conséquences de sa faute. C'est-à-dire qu'il le laisse peut-être trouver le chemin d'une réconciliation. Mais, et Cain devient, au fond, l'errant. N'est-ce pas ? Il n'a plus de lieu. Et donc, il subit les conséquences de sa faute. N'est-ce pas ? Le meurtrier ne peut plus simplement... il a tué son frère, et donc il n'a plus de lieu pour résider. Il devient errant. Mais en même temps, cet errant devient le constructeur d'une ville. N'est-ce pas ? Je ne me souviens plus suffisamment exactement de ce que dit le texte, mais on peut, je veux dire, ce que le texte dit peut aussi laisser penser à une démarche intérieure, chez Cain. Mais Je n'ai pas le texte suffisamment présent à l'esprit et je ne voudrais pas dire des bêtises. Mais oui, vous avez. Il y a effectivement un procès, n'est-ce pas? On instruit un procès. Et Caïn a le droit de se défendre. Il dit, suis-je le gardien de son frère? Mais il n'est pas le gardien de son frère. N'est-ce pas? Il a raison de dire cela. Voyez, les deux meurtriers, Caïn et Moïse, je dirais que ce sont des textes, notamment Caïn et Abel, c'est une manière de montrer comment le meurtre arrive dans l'humanité. N'est-ce pas? Et encore, Léopold Zondi dit que la question la plus importante, c'est pas la question d'Œdipe, n'est-ce pas le complexe d'Œdipe, c'est Caïn. Caïn, c'est-à-dire la rivalité entre frères. Vous voyez, la rivalité entre frères qui conduit au meurtre, n'est-ce pas? Et dans cette perspective, il y aurait toutes les théories de René Girard, n'est-ce pas, sur la violence qui découle du désir mimétique. N'est-ce pas? Vous avez deux frères, et puis les deux offrent un sacrifice, et puis Dieu regarde le sacrifice d'Abel, pas le sacrifice de Caïn. Il s'agit d'un sacrifice de prémices, c'est quelque chose qui a un rapport avec la bénédiction. Dire que Dieu ne regarde pas le sacrifice de Caïn, ça veut dire que Caïn, qui est le cultivateur, il a de mauvaises récoltes, alors même que les troupeaux d'Abel sont extrêmement abondants. N'est-ce pas? Ça va très bien pour Abel, ça ne va pas bien pour Caïn. N'est-ce pas? Et Caïn ressent cela comme une injustice. N'est-ce pas? Et son regard se ferme. Et Dieu lui dit, n'est-ce pas, tu ne veux pas lever ton regard. C'est-à-dire, regarde les choses en face. Éventuellement, va parler à ton frère. Explique-toi avec lui. Et puis, non, Caïn reste entièrement lui-même et il tue son frère. Mais je dirais que le moteur du meurtre, c'est au fond le sentiment d'être victime d'une injustice. Dans le cas de Moïse, c'est pareil. N'est-ce pas? Moïse tue un intendant égyptien, n'est-ce pas, qui brutalise un ouvrier hébreu, n'est-ce pas, c'est aussi, si vous voulez, la constatation d'une injustice qui conduit au meurtre. Dans le Lévitique, n'est-ce pas, je crois Lévitique 19, où il y a, si je ne me trompe pas, où il y a le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », juste avant, il y a « explique-toi avec ton frère ». N'est-ce pas? C'est-à-dire, aimer son prochain, c'est pas exercer, ne pas exercer de violence avec lui, mais dans, si vous voulez, la manière dont apparaît le commandement d'amour du prochain, c'est dans les situations de conflit. Dans les situations de conflit, explique-toi avec ton prochain, et comme ça, tu l'aimeras comme toi-même. Vous voyez,
la recherche de l'entente.
La recherche de l'entente, c'est-à-dire offrir des moyens de... comment on fait dans une situation de conflit. Or, les situations de conflit, les situations d'injustice subies, elles sont constantes. Constamment, on a le sentiment qu'un est défavorisé, alors je suis défavorisé alors qu'un autre est favorisé. Le sentiment d'être victime d'une injustice. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Je dirais que c'est un peu... Et la perspective de l'amour du prochain, la perspective du pardon, c'est la perspective de la paix, parce que c'est quand même cela que... C'est de chercher la relation avec l'autre, de faire en sorte que le motif du conflit ne conduit pas à la fin d'une relation avec lui.
Alors, d'un point de vue juif, c'est-à-dire moins biblique que rabbinique, j'aimerais revenir sur les deux jugements que vous avez décrits, c'est-à-dire le jugement de David et le jugement de Dieu. Vous avez, concernant le premier jugement, celui de David, et celui énoncé par David, vous avez posé cette question qui me semble fondamentale. Pourquoi David va-t-il plus loin que ce que prescrit la loi ? Alors, dans ce cas précis, il me semble qu'en énonçant cette condamnation à mort, David ne va pas seulement plus loin que la loi, on aurait presque envie en première approximation de dire il dépasse la lettre de la loi. Mais en fait, il va tellement loin qu'il sort du cadre de la loi, il est carrément hors la loi. Il est évident que, selon les enseignements du traité Sanhédrin, par exemple, sur les procédures judiciaires concernant la peine de mort, il est évident que la peine de mort ne saurait s'appliquer en cas de vol. Par exemple. Et donc, ce qui me semble caractériser le jugement énoncé par David, c'est paradoxalement son caractère de hors-la-loi, c'est-à-dire son caractère démesuré. Or, inversement, ce qui me semble caractériser le jugement de Dieu, c'est la mesure. Dieu rétablit la mesure face à la démesure humaine. Et là, c'est vers le traité Sota, folio 8 et suivant, qu'il faut se tourner. Le jugement de Dieu, finalement, revient à mettre en pratique le principe qu'on appelle mida keneged mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Tu as fait ceci, et donc logiquement, je vais t'infliger cela. Donc, bon, c'est évidemment très difficile de répondre à ce genre de questions, mais sans doute une réponse juive, comment Dieu combat-il le mal ? Eh bien, c'est précisément en proposant la loi, en proposant les mitzvot, parce qu'il essaye de réintroduire la mesure là où l'homme, au contraire, a introduit la démesure.
Oui, je crois que c'est certainement une piste tout à fait intéressante, parce que on parlait tout à l'heure de Caïn, et puis il y a un descendant de Caïn qui a ce chant de l'épée, n'est-ce pas, Caïn, je ne me souviens plus le texte, il faudrait que je le cherche, n'est-ce pas, puis c'est là où il y a 77 fois, n'est-ce pas, la vengeance, où il y a en quelque sorte une démesure dans la vengeance. Et vous faites peut-être référence au talion, au talion qui est effectivement qui rétablit la mesure, n'est-ce pas, et je pense que vous avez raison. Dans le Nouveau Testament, et alors je ne sais pas comment vous réagiriez à partir de la tradition rabbinique, dans la réponse, par exemple, ce serait d'opposer à la démesure de la vengeance ou la démesure du pardon. N'est-ce pas ? Combien de fois pardonner ? 77 fois, 7 fois. Vous voyez, donc reprenant là, c'est une allusion à cette formule dans le. De Chechan du chapitre 4. Voyez, oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Mais. C'est-à-dire que la mesure, au fond, situe la relation avec le mal dans une perspective de réciprocité. Je crois que cette réciprocité manifeste, si vous voulez, le mal a des conséquences. Et pardonner, c'est toujours pardonner, c'est prendre sur soi une partie de ce mal subi et non pas rendre. Mais le mal commis a des conséquences. Et l'idée du châtiment, c'est cette idée de réciprocité que les conséquences de l'acte que je fais reviennent sur moi. Et cela, c'est bien une question de mesure. Mais est-ce que, je dirais, est-ce que le terme de mesure est le dernier mot de la... Le dernier mot, je dirais, de ce que la Bible dit, et de ce que la Bible hébraïque dit de l'attitude de Dieu à l'égard du mal. Parce que, vous voyez, on parlait de Caïn, par exemple, Dieu diminue les conséquences. De la même façon, Adam et Ève, Dieu aussi diminue les conséquences de ce qu'ils ont fait.
Dans le cas de Caïn, il me semble que l'une des raisons, peut-être pour être rapidement, l'une des raisons pour lesquelles Dieu peut diminuer la peine de Caïn, c'est qu'Abel est aussi responsable, évidemment. Caïn seul n'est pas responsable.
Oui, c'est une façon de dire, et ça je crois que c'est aussi, ce que vous dites là, je crois que c'est quelque chose de très très important et très profond. C'est-à-dire que l'auteur d'un crime, ou l'auteur d'une faute, n'est pas le seul auteur de cette faute. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que, j'ai souvent au fond, essayé de réagir contre ça quand on parle de péché. C'est pas seulement une réalité individuelle. Nous sommes solidaires dans le péché. N'est-ce pas ? Et je crois que c'est ce que vous soulignez à propos d'Abel montre ça, et je crois que c'est vraiment très très important, parce que le mal que fait quelqu'un, il est peut-être fait de mon désintérêt à son égard, de ce que je n'ai pas fait, que j'aurais peut-être pu faire, pour éviter qu'il ne le fasse.
La provocation.
Ou aussi la provocation.
Oui, effectivement, le jour de Yom Kippour, effectivement, il y a confession, il y a confession publique, collective. Chacun confesse des péchés qui, heureusement, n'ont pas été forcément commis. Tout le monde confesse le meurtre, par exemple, la synagogue n'est pas remplie de meurtriers. C'est parce qu'il y a une responsabilité collective.
Oui, effectivement. Oui, oui. Oui, je ne peux pas simplement me laver les mains de ce qui a fait de mal à l'autre. Ah oui, alors je vous remercie pour cette indication parce que c'est.
J'ai pas prononcé.
Oui.
Et je disais que c'est aussi se déculpabiliser de dire qu'on n'est pas seul responsable. Et je disais que l'exemple est celui d'Adam, qui, quand Dieu lui a demandé pourquoi tu as mangé le fruit défendu, il a dit la femme que tu m'as donnée, donc c'est-à-dire que toi tu es responsable, tu es responsable, la femme aussi, et moi finalement je suis. Un peu responsable, mais pas tant que ça, quoi.
Mais qui n'a pas dit « c'est pas moi, c'est lui », n'est-ce pas ? On cherche à éviter la culpabilité. Mais là, dans ce que disait monsieur tout à l'heure en citant la pensée rabbinique, c'est pas de dire c'est l'autre, mais moi aussi je suis responsable de ce qu'a fait l'autre. N'est-ce pas? C'est-à-dire moi aussi sa faute me concerne. Et ça, je crois que ça touche, n'est-ce pas, une perspective, disons, individuelle, une perspective individuelle, le purement individuel ne permet pas de rendre compte ni du mal, ni de ce qu'est la lutte contre le mal. N'est-ce pas, en ce moment, le bilan de la criminalité en France, n'est-ce pas, la délinquance, les atteintes aux biens, mais tous ceux qui ont commis ces actes, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de rétablir leur situation? Ça fait partie aussi, disons, d'un problème qu'une société se pose.
Je propose peut-être une dernière question, mais on a été très très gâtés. Alors, Ernella,
je m'excuse beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Jusqu'à présent, j'ai trouvé personne qui pouvait répondre. C'est Dieu qui est le créateur. Il a pris tout le monde le sait, 6 jours. Il était content. Qui a créé le mal?
Alors, là, dans la perspective biblique, ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. Mais le mal vient de ce que de ce qu'est l'être humain et de ce qu'est la réalité. Voyez, le meurtre de Caïn, premier meurtre dont parle le livre de la Genèse, le meurtre de Caïn, ça n'est pas parce que Caïn est de toute éternité un meurtrier, mais c'est les circonstances qui ont fait que. N'est-ce pas? L'être humain est de tel, avec son désir de dignité, n'est-ce pas? C'est au fond c'est Zondi, n'est-ce pas? Je reparle encore de Zondi. Dans ce livre sur Caïn, il cite un texte rabbinique dont je n'ai pas à la mémoire la référence. Servir Dieu avec la pulsion mauvaise. Vous voyez, il y a des situations où j'éprouve de la colère et où je ne peux pas ne pas éprouver de la colère parce que je subis une injustice ou bien j'ai l'impression que je suis défavorisé ou bien que ça va pas bien pour moi parce que les circonstances sont comme ça. Sans que peut-être personne ne l'ait voulu, ça se produit comme cela. N'est-ce pas, si vous avez une sécheresse dans une région et puis ça va très bien dans une région voisine, personne n'a voulu cela. Ça se produit ainsi. Et donc, que certains puissent éprouver de la colère, on peut le comprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Caïn n'est pas condamné parce qu'il éprouve de la colère. Dieu lui dit, n'est-ce pas, relève ton visage et le péché qui est tapis à ta porte, domine-le. C'est-à-dire que Dieu est là pour avertir Caïn de ce qui se passe. Voyez, le mal, la possibilité du mal, c'est quelque chose qui découle de ce que nous sommes et des circonstances que nous vivons. Et Dieu est avec nous pour nous accompagner. Cette colère, elle n'est pas nécessairement mauvaise. Parce que cette colère, c'est aussi la colère qui nous permet de nous indigner contre le mal. Vous voyez, cette affirmation rabbinique, servir Dieu avec la pulsion mauvaise. Nous éprouvons de la colère, ou bien, comme David, nous éprouvons, n'est-ce pas, une séduction pour une belle femme. Qu'est-ce que nous faisons de ce mouvement? De ce mouvement pulsionnel, comme vous l'avez appelé. C'est très bien d'avoir des pulsions, c'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Voilà la manière dont peut-être je peux répondre. Mais en tout cas, Dieu n'est pas l'auteur du mal, il est au contraire celui qui nous accompagne et qui nous avertit.
Je vais essayer de faire court, c'est une petite réponse. Hein. Évidemment, Dieu n'est pas le créateur du mal, mais il a pris des risques. Le mal, ce serait la part, c'est le risque de Dieu. Où est-ce qu'il a pris des risques, Dieu? Dieu, il a pris des risques en créant ce monde et en créant l'humanité. Il a osé le faire. Et ce mal exprime ce risque qu'a pris Dieu en nous créant. Alors, indirectement, on pourrait considérer que, mais il a osé le faire, parce qu'il avait tellement envie de créer cette humanité qu'il en a pris le risque.
C'est une conclusion. En tout cas, merci pour cette soirée vraiment extraordinaire. Merci, merci. Et je n'avais pas donné au départ votre autre titre, vous êtes pasteur, mais vous êtes aussi professeur émérite de la faculté de théologie protestante de Genève. Alors, on vous sent tellement à l'aise en tant que professeur, et nous, j'espère que nous avons été de gentils élèves, ou en tout cas, nous étions très intéressés par votre question. Merci encore. Merci beaucoup.